Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de Sainte Catherine d'Alexandrie, dont c'est la fête aujourd'hui. Et c'est la patronne de la ville de Sierre. Cette sainte peut nous servir d'exemple, justement, pour ces périodes qui seront troublées. Sainte martyre, elle était de race royale et naquit vers l'an 289, donc encore dans cette période de persécution. Elle naquit à Alexandrie et fut élevée dans cette ville qui était renommée pour sa science. C'était une des villes les plus savantes du monde. Lorsque Catherine était toute petite, la Sainte Vierge lui apparut, tenant entre ses bras l'enfant Jésus. Et le Sauveur, lui donnant 1000 témoignages d'amitié et de bienveillance, lui dit « Catherine, je vous ai choisie pour mon épouse. » Et à son réveil, elle vit à son doigt un anneau d'or. Elle comprit donc que c'était le symbole de l'alliance mystique qu'elle venait de contracter avec notre Seigneur. Le bon Dieu avait doué Sainte Catherine d'une intelligence remarquable, d'un esprit vif. Et elle acquit à l'école d'Origène une science profonde de la philosophie chrétienne. Et à ce point qu'à 18 ans, on la regardait comme un prodige de savoir et de sagesse. En l'an 307, l'empereur Maximin passa par Alexandrie, il y séjourna quelque temps. Cet empereur Maximin était connu par sa haine envers le christianisme, envers les chrétiens. Il en avait persécuté de grandes quantités et il continuera. Et lorsqu'il s'arrêta dans cette ville d'Alexandrie, il publia un édit par lequel il ordonnait à tous ses sujets de sacrifier aux dieux de l'État, et il condamnait à de grands supplices et même à la mort tous ceux qui lui désobéiraient. Et pour déterminer ses sujets à lui obéir, il offrit un sacrifice comme on n'en avait jamais vu. Il organisa une grande cérémonie, fit amener de nombreux animaux pour être sacrifié dans le temple de Sérapis à Alexandrie. Et une foule immense, docile aux ordres de l'empereur, se pressait sous les portiques de ce temple qui était trop petit pour les contenir tous. Dans cette fête sacrilège, Catherine ne resta pas sans rien faire. Elle parcourait, elle allait fortifier les chrétiens et leur faisait comprendre que c'était une ruse du démon, que tous ces artifices, que tout ce que l'empereur avait organisé pour les détourner de la vraie foi et pour les entraîner avec eux. Elle les fortifiait et les invitait à être courageux et à ne pas craindre les supplices et même la mort s'il le fallait. Mais elle ne demeura pas à cela. Elle entra dans le temple, elle a 18 ans, elle alla au-devant de l'empereur, à l'autel, et elle se mit en face de lui et lui fit de graves reproches. Elle lui reprocha avec un noble courage les artifices dont il se servait pour séduire le peuple. Puis elle démontra qu'il fallait abandonner le culte aux faux dieux et croire en Jésus-Christ si on aspirait au salut. Quel courage il a fallu à cette jeune fille de 18 ans de se présenter devant ce grand empereur Maximin, entouré de ses ministres et d'une foule nombreuse, en pleine cérémonie où l'on offrait ses sacrifices. Et aussi, quel étonnement fut celui de Maximin de voir cet enfant se présenter et lui faire de sévères reproches. Ne sachant pas comment réagir dans une situation si imprévisible, il lui dit qu'il voulait terminer cette cérémonie et qu'il l'entendrait après. Et ainsi, après la cérémonie, il fit appeler Catherine auprès de lui. Il demanda qui elle était et qu'est-ce qui l'avait poussé à faire un acte pareil, à le troubler pendant cette cérémonie. Alors elle répondit à cet empereur, « Mon nom est Catherine, j'appartiens à une des plus illustres familles du pays. » En effet, Catherine était de race royale. « Après avoir consacré tout mon temps à la connaissance de la vérité, j'ai reconnu la vanité des idoles que vous adorez. Je mets toute ma gloire et toute ma richesse à être chrétienne et épouse de Jésus-Christ. Et mon unique souhait est que vous le connaissiez avec tout votre empire. » Puis elle révéla des choses sublimes sur l'essence de l'être unique qu'elle adorait. Elle le fit avec une telle sagesse que l'empereur ne s'estimait pas assez savant pour discuter avec elle. Alors il fit venir 50 des plus renommés philosophes de la région. Et il leur promit une grande récompense s'ils arrivaient à confondre Catherine, de renier sa religion et de revenir au culte de leur dieu, des dieux de l'État. Imaginez un peu cette troupe de philosophes qui ne se prenaient pas pour les derniers parmi les créatures. Avec quel mépris ils considéraient Catherine. Mais la récompense de l'empereur valait la peine de s'affronter avec elle. Et ils ne se sont pas trop fait de soucis, ils pensaient la réduire au silence assez rapidement. Alors, le maître des philosophes l'appela et essaya de confondre sa religion et de la ramener au culte des faux dieux. Et elle lui répondit fermement, avec telle force, elle employa les arguments si solides que les 50 philosophes furent confondus, s'avouèrent vaincus et confessèrent ouvertement la divinité de Jésus-Christ. Vous pensez bien dans quelle colère est entré l'empereur qui fit jeter tous ses philosophes sur un bûcher et les fit brûler. Et ces philosophes moururent en prononçant le nom de Jésus. Voilà. Ils sont entrés immédiatement dans le ciel, ils sont morts en témoignant de notre Seigneur. Ensuite, l'empereur retourna auprès de Catherine et il voulut la gagner par des propositions flatteuses et les plus séduisantes. Il lui offrit un trône et même sa main, alors qu'il était déjà marié, tant il était séduit par la sagesse et par la beauté de Catherine. Alors notre sainte eut en horreur ces propositions et répondit que nul autre que Jésus-Christ n'aurait son cœur. Furieux, Maximin la fit flageller, la fit torturer pendant 2 heures, puis la fit mettre dans un cachot, privé de toute nourriture et de tout soin. Et entre-temps, elle dut partir en voyage. L'impératrice Faustine, ayant entendu parler des merveilles de Catherine et de cette sagesse prodigieuse, voulut par curiosité aller la trouver. Alors elle demanda au chef des soldats Porphyre de l'y conduire, et ils se rendirent au cachot. Ils trouvèrent Catherine sans aucune blessure, elle avait été guérie miraculeusement, et avec une mine resplendissante, comme si elle avait été nourrie des plus fins des mets. Ils furent déjà surpris de ce miracle, et puis ils s'entretinrent avec elle, qui finit par les convertir. Lorsque l'empereur revint de sa tournée, de son voyage, et qu'il apprit que son épouse avait été convertie par Catherine ainsi que Porphyre, le chef de son armée, il entra dans une grande colère. Il essaya de leur faire renier la religion chrétienne, mais en vain, si bien qu'il dut les faire décapiter. On leur fit trancher la tête. Alors il fit reparaître Catherine auprès de lui, et comme son épouse était morte, alors il voulut encore une fois la séduire pour l'épouser. Catherine répondit à toutes ces propositions. « Lequel vaut-il mieux que je choisisse ? Un époux puissant, éternel et glorieux, éclatant de beauté, ou bien un homme faible, mortel, sans noblesse et repoussant de laideur ?» Ce n'était pas pour arranger notre empereur, qui entra dans une colère des plus grandes. Et il condamna donc Catherine à être broyée par ses roues, qui était entouré de pointes aiguës de lames de rasoir, que l'on représente Sainte Catherine souvent avec cette roue en main, cette partie de roue en main. Et bien sûr, lorsqu'elle monta sur le lieu du supplice, elle s'adressa à Dieu, et ses roues partirent en éclats avec un bruit si fracassant que tous ceux qui s'y trouvaient furent effrayés et s'enfuirent. Même certains soldats qui se trouvaient autour furent tués par l'éclat de ses roues. Des parties de ses roues. Maximin entra encore dans une colère plus grande qu'il décida de lui trancher la tête. Et avant de se faire trancher la tête, Catherine avait demandé au bourreau de lui laisser encore quelques instants pour adresser une dernière prière, dans laquelle elle remercia Dieu de l'avoir soutenue et puis demanda pardon de tout ce qu'elle aurait pu faire et qui l'aurait offensé, et de l'accueillir dans son paradis. Aussi, il demanda à Dieu de mettre fin à cette persécution qui était faite contre les chrétiens. Et à la fin de sa prière, une voix se fit entendre. « Viens, ma bien-aimée, mon épouse, la porte du ciel est ouverte pour toi. J'exaucerai tes demandes, et tous ceux qui célèbrent ton martyr avec dévotion, je promets de leur accorder le secours qu'ils désirent. » Profitons donc, mes bien chers fidèles, de cette fête de Sainte Catherine pour demander à Dieu son secours par l'intermédiaire de Sainte Catherine, et il sera obtenu. D'ailleurs, ce martyr eut lieu en l'an 307, et vous savez que c'est sous Constantin le Grand que la persécution prit fin, la grande persécution, en 315. Donc, on arriva à la fin de cette persécution sanglante. Le corps de Sainte Catherine fut transporté miraculeusement sur le mont Sinaï, où Moïse reçut la loi. C'est ce que dit l'oraison de la fête de Sainte Catherine. Et on l'appelle la patronne, elle est d'ailleurs la patronne des philosophes et des étudiants, de par sa science vaste. Mais bien, chers fidèles, voyez l'exemple d'une jeune fille qui s'est laissée mener par le Saint-Esprit et qui n'a pas eu peur d'affronter la mort, voyez, face à ses ennemis de notre Seigneur, face à ses ennemis de Dieu, face à ses ennemis du christianisme. Bien, nous aussi, nous n'avons pas à avoir peur de notre religion. Nous savons que nous sommes dans la vérité, nous savons que nous sommes dans le bon chemin, non pas par un orgueil, non, par notre humilité, justement, en suivant ce qui nous a toujours été transmis. Nous n'avons pas à nous tenir sur des fondements faibles, nous sommes sur un fondement solide qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la foi. La foi est une science encore bien plus certaine et bien plus solide que toutes les sciences humaines, même bien plus certaine et bien plus solide que ce que nos sens nous apprennent. Parce que notre foi repose sur la certitude de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous tromper ni se tromper. Ce qui a été dit, ce qui a été vrai, restera vrai. Est vrai toujours et restera vrai pour l'éternité. Donc, mes bien chers fidèles, que cette sainte Catherine soit pour nous un modèle de notre attitude à tenir en ce temps de l'apostasie générale. Nous n'avons pas à nous cacher, nous n'avons pas non plus à imposer notre manière de voir d'une manière avec un zèle amer. Non, soyons pleins de charité. Nous avons à gagner les âmes à notre Seigneur. Mais demandons à Notre-Dame de nous aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh, ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous présente, c'est ce qui se réalise bien souvent. L'ingratitude. Hélas, la majorité des hommes sont bien comme ces 9 juifs. La véritable reconnaissance est extrêmement rare parmi les hommes. Et ce Samaritain de l'Évangile est bien pour nous un modèle de reconnaissance. Voilà que ces lépreux, après avoir imploré notre Seigneur, s'en vont vers les prêtres. Pourquoi doivent-ils aller voir les prêtres? Eh bien, les prêtres avaient été établis par Moïse, bien sûr par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, pour déceler si, par exemple, les taches qu'ils avaient étaient de la lèpre ou pas. Et une fois que la lèpre était déclarée, alors ils devaient, ceux qui étaient atteints de cette maladie, devaient se tenir à l'écart des autres, parce que c'est une maladie contagieuse. Ils ne devaient plus entrer dans les villes, dans les villages. Ils devaient se tenir en dehors et par groupe. Ils devaient même avoir une clochette pour avertir toute personne qu'il était lépreux et afin qu'il se tienne à distance. Jésus allait entrer dans un petit village et voilà que 10 lépreux l'ont vu et se sont mis à appeler pour lui demander d'intervenir pour eux, de les guérir. Jésus les envoie vers les prêtres donc pour que non seulement les prêtres déclarent la maladie, mais ensuite qu'ils doivent reconnaître la guérison. Et alors, s'il y a guérison réellement, les prêtres leur donnent tous leurs droits. Ils peuvent à nouveau rentrer dans les cités, rentrer dans la vie de tous les jours avec les autres. Alors ils allaient vers les prêtres pour cela et en route, ils sont guéris. Vous pensez bien qu'en allant se montrer aux prêtres comme guéris, c'était une grande joie pour eux, c'était un changement de vie. Une grande espérance aussi de retrouver toutes ces familles, ces amis, tout cela. Eh bien, ce Samaritain, lui, a eu un sentiment de reconnaissance plus grand, voyez, que de tous les bienfaits qu'il allait retrouver par cette guérison. Et ce sentiment, eh bien, l'a fait se retourner en arrière et se présenter à Jésus pour le remercier. Oui. Eh bien, nous aussi, nous recevons beaucoup de bienfaits du bon Dieu, nous sommes comblés de ces bienfaits et nous sommes si peu reconnaissants. Dans cette, c'est pas une parabole, c'est un fait qui a eu au temps de notre Seigneur. Les 9 autres étaient des Juifs. Et le Samaritain était donc considéré comme un étranger. Il y a eu seulement cet étranger pour venir remercier. C'est une leçon pour nous. Nous qui sommes des chrétiens, qui sommes des enfants de Dieu, nous risquons de nous endormir, de nous attiédir, et de ne plus apprécier tout ce que le bon Dieu fait pour nous. Et nous risquons de ne pas avoir la reconnaissance que nous devrions avoir envers Dieu. C'est naturel, en général, que nous reconnaissions, que nous exprimons notre reconnaissance envers ceux de qui nous recevons quelques bienfaits. Envers ceux qui nous assistent dans nos besoins, ceux qui nous soulagent de nos peines, ceux qui nous consolent dans nos afflictions, qui nous conseille dans nos incertitudes, qui nous instruise dans notre ignorance. Même, nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous avertissent de nos défauts, ou qui nous ramènent de nos égarements, qui nous reprennent de nos fautes. On n'aime pas beaucoup cela, et pourtant nous devrions apprécier et être très reconnaissants. Mais aussi, il faut toujours regarder plus haut. Il faut regarder Dieu, de qui tous les biens nous viennent, soit directement, soit indirectement, par des personnes, par des instruments que le bon Dieu choisit. Et donc, il faut toujours voir, voyez, la main de Dieu. Tout don excellent, nous dit le Saint-Esprit, dans l'Épître de Saint-Jacques, tout bien parfait nous vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Les hommes par lesquels il nous arrive ne sont que des instruments de la munificence divine. Ce ne sont que des canaux qui font découler jusqu'à nous les grâces de Dieu. Cet homme dont nous venons de recevoir un bienfait, c'est Dieu qui lui a inspiré la pensée. C'est lui qui lui en a donné la volonté, qui lui en a fourni même les moyens. En somme, Dieu est bien plus que celui qui nous donne ses biens. Dieu est bien plus notre bienfaiteur. À chaque bonheur que nous éprouvons, de quelque main qu'il vienne, c'est vers Dieu que doivent s'élever nos premières actions de grâce. Voilà. C'est par lui que doit commencer notre gratitude. Et c'est à lui qu'elle doit se terminer. Parce que c'est Dieu qui a donc donné ses pensées, qui a donné cette idée aux autres, voilà, de nous rendre ces quelques services. Nous ne pensons pas assez à ces bienfaits que Dieu nous a donnés, voyez, surtout comme celui de l'existence, voilà. Les biens de la nature, les biens de la grâce, les biens de la fortune. Si nous pouvions considérer un peu cela, nous serions émerveillés de voir ce que Dieu fait pour nous à chaque instant et chaque jour. Et même aussi, les malheurs, les afflictions, les pertes, les infirmités, les douleurs nous viennent de Dieu. Et si nous regardons cela comme des malheurs, c'est à cause de notre faiblesse, la faiblesse de notre nature humaine. Tandis que notre foi nous dit non, ce sont des bienfaits, ce sont les bienfaits de Dieu. Saint Jérôme nous dit, la vertu propre aux chrétiens et de rendre grâce au Créateur même des adversités qu'ils éprouvent, comme le saint homme Job. Saint homme Job bénissait le Seigneur également dans les maux qu'il devait endurer, parce qu'il disait qu'elle venait de la main de Dieu. Si nous remercions Dieu pour les biens qu'il nous donne, pourquoi ne remercierions-nous pas Dieu pour les maux qu'il permet que nous ayons? Et saint Paul déclare que la volonté de Dieu est que nous lui rendions grâce en toutes choses, en toutes choses. Que nous le remercions toujours et de tout. Bien sûr, nous ne pouvons pas, du fait de notre faiblesse, être en continuelle action de grâce, ce que nous ferons au ciel, ce que font les bienheureux dans le ciel. Mais il faut y penser souvent. Le matin, le soir, quelquefois dans la journée, avant et après les repas. Voyez, il faut que nous ayons cette habitude de remercier Dieu. Et jamais nous ne remercierons de trop. Il faut être dans cet état d'esprit, voilà, de reconnaissance continuelle. Mais aussi, une grande reconnaissance que nous devons envers Dieu, c'est du péché dont il nous a guéris, dont il nous a délivrés. En nous guérissant du péché, en pardonnant nos péchés, le bon Dieu nous a retirés de l'enfer où nous nous précipitions. Imaginez quelle reconnaissance auraient les damnés si Dieu venait les en sortir de cet enfer pour leur donner l'occasion de se sauver. Eh bien nous, voilà, le bon Dieu nous a sortis de cet état de damnation que nous étions par le péché mortel. Il nous a guéris de cette lèpre de l'âme qui est bien pire que la lèpre du corps. Et combien de fois, hein? Bon, cela dépend de chacun. Pour certains, c'est de nombreuses fois, pour d'autres un peu moins. Mais c'est chaque fois une grande grâce pour chaque péché qui a été pardonné, dont nous avons reçu l'absolution. Ces péchés qui nous ont provoqué la colère de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, c'est la clémence de Dieu qui a répondu à cette colère que nous l'avons fait. Dieu a opposé à nos outrages les plus grands bienfaits. Il a été plus miséricordieux encore que nous avons été ingrats. Pour que nous y pensions cela, c'est la réalité. Hein? Et pourtant, qu'est-ce que nous méritons? Pourquoi avons-nous reçu de telles faveurs de la part du bon Dieu? Qu'avons-nous? Que sommes-nous aux yeux de Dieu pour mériter de tels bienfaits? Que le bon Dieu nous fasse qu'il nous pardonne de nos péchés, qu'il fasse grand cas de nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Voyez? C'est de cet affreux abîme que la bonté divine nous a retirés. Eh bien, ce lépreux, ce Samaritain guéri de sa lèpre, est un modèle de vive et humble reconnaissance. Voyez comment il fait. Dès qu'il se voit guéri, il retourne immédiatement auprès de Jésus. Où se trouve Jésus? Il se prosterne en louant Dieu. Voilà. Il exprime de sa meilleure façon la reconnaissance envers notre Seigneur. Et nous sommes si peu reconnaissants. Combien de fois nous pourrions aller devant un Saint-Sacrement et que nous n'allons pas? N'oublions pas que Jésus dans le tabernacle est présent. Il nous attend. Et oui, il nous attend des journées, en espérant qu'on vienne le visiter. Il nous appelle même. Lui, ce prisonnier d'amour pour nous. Et si nous venons, quel accueil il nous fait. Lui, la source de tous les bienfaits. Lui, c'est ce Dieu si aimant. Eh bien, imitons ce lépreux, ce Samaritain guéri de sa lèpre, qui est retourné auprès de Jésus. Tâchons d'aller souvent vers Jésus. Lorsqu'il y a des expositions du Saint-Sacrement, voilà. Aimons à aller remercier Jésus. Aimons à aller l'adorer, le glorifier. Aimons à être auprès de lui. Sortons un peu de notre médiocrité, de notre tiédeur, de notre relâchement. Donnons-nous de la peine pour un Dieu si bon, qui s'est donné tant de peine pour nous. C'est justice que nous lui rendions grâce. Eh bien, voyez, ce lépreux qui est venu rendre grâce à Dieu, à notre Seigneur, a reçu une plus grande grâce. Va, ta foi t'a sauvé. Il a reçu la grâce du salut, que les autres n'ont pas reçu. Ils ont été guéris seulement corporellement, mais pas dans leur âme. Est-ce que lui, d'avoir remercié, donc nous serons toujours récompensés si nous venons remercier notre Seigneur. Alors n'hésitez pas. Si vous pouvez assister à la messe en semaine ou plus souvent, n'hésitez pas. Voilà. C'est une façon de remercier Dieu de tous ses bienfaits. Alors essayons, voyez, d'être plus reconnaissants envers ce Dieu. Demandons à la Sainte Vierge de nous apprendre cette reconnaissance. Demandons à ces saints qui nous ont précédés. Oui. Combien ils ont béni, combien ils ont loué, combien ils ont remercié Dieu des grâces qu'il leur avait faites. Imitons-les. C'est notre devoir de chrétien. Et ainsi nous recevrons encore davantage de bienfaits pour notre âme, pour notre sanctification. Le bon Dieu n'aime pas être dépassé en générosité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tandis qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et il sortit une voix de cette nuée qui fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. Dans cet événement de la transfiguration, la volonté de ce Dieu créateur, de ce Dieu unique, de ce Dieu maître de l'univers, nous est clairement manifestée. Il nous a envoyé son Fils unique, celui en qui il trouve toutes ses complaisances, et qu'il nous demande d'écouter. Écoutez-le. Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, nous dit qu'autrefois, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières par ses prophètes, mais qu'en ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils même. Les prophètes ne furent que les précurseurs de l'homme-Dieu. Et la loi qu'ils publiaient ne fut qu'une disposition à la sainte et nouvelle loi que Jésus a portée au monde. C'est pour cela que notre Seigneur, au Tabor, paraît entre Moïse et Élie. Moïse, qui représente la loi, c'est lui qui avait reçu la loi sur le mont Sinaï, et Élie, qui représente les prophètes. Sur le mont Tabor, à l'occasion de cette transfiguration, notre Seigneur était éclatant de lumière. Cela nous apprend que toutes les ombres de l'ancienne loi sont dissipées, que toutes les prophéties ont reçu un parfait éclaircissement, puisque les prophéties étaient faites sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et que désormais, il n'y a que lui qui mérite d'être écouté. Il n'y a que notre Seigneur qui mérite d'être suivi comme maître, puisque Dieu le Père a daigné nous l'envoyer. Cependant, que cette loi de Jésus-Christ a été critiquée, ce qu'elle a été combattue, qu'elle a été rejetée. Depuis son institution, cette loi de Jésus-Christ a été le problème de tous les siècles. Pour certains, cette doctrine était trop élevée, trop sublime, trop au-dessus de l'humanité, impossible d'atteindre, trop exigeante. Et pour d'autres, au contraire, ils trouvaient cette doctrine beaucoup trop humaine, beaucoup trop relâchée, beaucoup trop indulgente, pas assez sévère. Il y avait toujours ces deux tendances, les deux extrêmes. Eh bien non, la loi chrétienne est une loi juste, est une loi raisonnable, est une loi conforme à la règle universelle de l'Esprit de Dieu, car elle tient le milieu entre ces deux extrêmes. La loi de notre Seigneur Jésus-Christ est une loi sainte et parfaite. Elle n'a rien d'exagéré. C'est une loi modérée. Elle est proportionnée à la faiblesse des hommes. Elle n'a rien de lâche. Ceux qui la critiquent, ce sont ceux qui ne la connaissent pas ou qui n'ont qu'un aspect et bien incomplet de cette loi de Dieu. Non, tout est raisonnable, tout est adapté à notre nature déchue, à notre nature blessée par le péché originel. Est-ce qu'elle n'est pas raisonnable, cette loi de Dieu, de nous demander de nous renoncer à nous-mêmes quand nous savons
de quoi nous sommes capables. Si nous suivons tous nos désirs, tous les désirs de notre nature blessée, ce que cela donnerait. Si nous nous analysons, nous voyons bien que nous sommes vite, nous sommes facilement en colère, nous sommes facilement pleins de nous-mêmes, nous avons le mensonge facile. Voyez. Et bien justement, dans le fait de nous renoncer à nous-mêmes, eh bien nous renonçons à ces sentiments désordonnés qui naissent dans nos âmes, qui viennent de nos cœurs. Est-ce qu'il n'est pas raisonnable, cette loi chrétienne, de nous demander de mortifier notre chair? Notre chair qui ne cherche qu'à se révolter contre notre esprit, qui ne cherche qu'à se révolter contre Dieu, qui ne cherche que le désordre à l'encontre de cet ordre que Dieu a établi et que Dieu veut. Oui, il est bien nécessaire que nous tenions captifs nos sens, parce que la liberté que nous leur accorderions nous exposerait à 1000 tentations. Est-ce qu'elle n'est pas raisonnable, cette loi chrétienne, qui nous défend de nous venger? Que serait-ce si chacun était en droit de satisfaire ses ressentiments? Et cette loi chrétienne nous demande non seulement d'oublier, de pardonner les injures, mais d'être prêt à en essuyer encore de nouvelles. Est-ce qu'il n'est pas raisonnable, cette loi chrétienne, qui nous demande d'aimer jusqu'à nos ennemis? Puisque la foi nous enseigne que tout ennemi qu'il est, il est mon frère, il est notre frère. Et aussi, si nous sommes les ennemis de Dieu, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'il soit miséricordieux, qu'il soit patient, qu'il soit bon. Eh bien aussi, il faut que nous le soyons avec nos ennemis. Est-ce qu'elle n'est pas raisonnable, cette doctrine chrétienne, qui nous demande de nous éloigner, de fuir ceux qui sont des obstacles à notre salut? Même si ces personnes sont celles à qui nous devons la vie. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces paroles de notre Seigneur qui nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir à moi et ne hait son père ou sa mère, ne peut être mon disciple. Haïr, ici il faut le comprendre dans le sens de ne pas préférer. C'est une expression hébraïque qui, justement, dans lequel notre Seigneur veut dire celui qui ne préfère pas. Est-ce qu'elle n'est pas raisonnable, cette doctrine chrétienne, qui nous demande de nous arracher à ce qu'on a de plus cher et de se séparer de ce qu'on aime le plus tendrement si cela nous conduit au feu éternel pour un plus grand bien? C'est ce que nous dit notre Seigneur. Si ton œil te scandalise, arrache-le, jette-le l'un de toi. Son œil, c'est bien ce que nous avons de plus cher. Oui. Eh bien, c'est ça. Il faut aller jusqu'à se séparer de ce que nous avons de plus cher, celui qui nous est le plus tendre. Si c'est pour éviter le feu éternel. Est-ce qu'elle n'est pas raisonnable, cette doctrine chrétienne, qui fait à l'homme un crime de ses désirs et qui traite d'adultère un regard impur? Car, comme le dit saint Jérôme, il n'est pas permis de désirer ce qu'il n'est pas permis de rechercher. Et une loi qui ne punit pas les mauvais désirs est une loi imparfaite. Elle est propre à faire des hypocrites plutôt que des justes, puisqu'il est impossible de réformer l'homme si l'on ne commence pas par réformer son cœur. Oui, n'est-elle pas raisonnable cette doctrine chrétienne qui qualifie de bienheureux ceux qui ont la pauvreté de cœur? Et l'expérience nous le fait bien voir, qu'il n'y a pas d'heureux sur la terre que les pauvres de cœur. Puisque la source ordinaire de nos chagrins est l'attachement au bien de la vie. C'est la source aussi ordinaire de bien des disputes, de bien des déchirements. Oui. Même dans les familles, lorsqu'il faut se disputer un héritage, que de déchirements, de ces êtres qui s'entendaient bien avant. Oui. Et on pourrait continuer ces considérations. Et plus nous approfondirions cette loi, plus elle nous paraîtrait sage. Plus on découvrirait sa sagesse, et c'est normal, parce qu'elle vient d'en haut. Soit qu'elle contredise nos plaisirs, cette loi chrétienne, soit qu'elle nous accorde certains divertissements honnêtes et modérés, soit qu'elle réprime notre ambition, soit qu'elle nous laisse la liberté de penser à nos besoins et de pourvoir par des voies légitimes à notre établissement, soit qu'elle réprouve notre luxe, soit qu'elle approuve une bienséance modeste et chrétienne, partout, nous découvrirons le même caractère de sagesse dans cette loi chrétienne. Cette loi chrétienne est parfaite, d'une perfection qui gagne le cœur en persuadant l'esprit. Cette loi chrétienne s'accommode à tous les esprits et à toutes les conditions des hommes. Loin de causer du trouble, elle règle tout, elle corrige tout, elle maintient tout dans l'ordre. Elle amène en somme l'ordre. Et bien sûr, avec l'ordre, la paix, puisque la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Cette loi chrétienne inspire une humilité sans bassesse. Elle inspire une générosité sans orgueil. Elle inspire une modestie sans contrainte. Elle inspire une liberté sans épanchement, retenant dans un juste équilibre tous les mouvements et toutes les affections de l'âme. La sagesse et la sainteté de cette loi chrétienne ne peuvent venir que de Dieu. C'est son ouvrage. Elle est un bien pour l'humanité qu'on ne pourra jamais assez estimer. Il nous faut remercier Dieu de nous avoir envoyé son propre fils pour nous enseigner cette belle doctrine, cette sagesse. Et aussi, il nous faut demander la grâce de demeurer toujours ferme et inébranlable dans l'obéissance et dans la pratique de cette loi. Car en suivant cette loi, eh bien, nous ne craindrons pas de nous égarer. Demandons aussi, bien sûr, à la très sainte Vierge Marie, de qui nous avons obtenu cette sagesse éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle devait boire toutes les paroles que notre Seigneur prononçait. Chaque parole était pesée. Mais demandons à Notre-Dame, notre bonne maman du ciel, bien de nous donner aussi ce goût de la parole de Dieu, de cet enseignement de la révélation, ce désir de la connaître toujours d'une façon plus approfondie, de découvrir cette sagesse de Dieu qui nous a été révélée. Demandons donc, et puis aussi à tous ces saints, à ces pères de l'Église, à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ces prédicateurs qui se sont dévoués à nous faire connaître cette sagesse de Dieu, demandons-leur cette grâce aussi, que nous puissions goûter à cette nourriture céleste. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un des grands soucis de l'Église est le même que celui de Dieu, bien sûr, puisqu'elle poursuit l'œuvre de notre Seigneur, elle poursuit l'œuvre de Dieu, puisqu'elle est divine. C'est l'instrument dont Dieu se sert. Voilà. Eh bien, de ces grands soucis, c'est de nous faire parvenir à la vie éternelle. C'est de nous faire arriver au ciel. Et pour cela, eh bien, toujours il y a ce même combat que vous avez pu, voilà, percevoir un peu dans l'épître, et surtout celle de dimanche passé, cette lutte entre la chair et l'esprit, entre le... voyez. Et pour cela, l'Église, eh bien, nous propose plusieurs fois pendant l'année la pensée de la mort. Ce n'est pas qu'elle veut nous attrister, ce n'est pas qu'elle veut nous rendre mélancoliques, mais c'est pour nous procurer un plus grand bienfait. Et la pensée de la mort est très salutaire. Elle nous propose cette pensée le 2 novembre, où elle nous fait commémorer tous les fidèles défunts, le 23e dimanche après la Pentecôte, en nous parlant de la fille de Jaïr, ou le vendredi de la 4e semaine de Carême, où elle nous présente la résurrection de Lazare, mort aussi. Et aujourd'hui, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Eh bien, rien n'est plus capable de nous détacher de la vie et des plaisirs du monde et de nous porter à nous occuper de ce moment terrible qui doit décider de toute notre éternité que la vue d'un cadavre que l'on conduit au tombeau. Ces gens sortaient de la ville de Naïm accompagnant la veuve qui allait enterrer son fils unique. Le bon Dieu nous parle par les événements de la vie. C'est une façon au bon Dieu de nous rappeler ces réalités. La mort nous prouve de la manière la plus forte que la vie est caduque et qu'il faut s'en détacher avant qu'elle nous en arrache malgré nous. Jeune ou vieux, nous dit le roi David, je penserai souvent que je mourrai un jour et je m'y préparerai de bonheur. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Cet instant de la mort est peu sensible dans sa durée. Il nous est un peu connu et cependant, il suffit pour nous faire le passage dans l'éternité. C'est un moment formidable par lui-même. Tout ce qui est dans le monde meurt pour l'homme. Tout lui échappe et lui meurt au monde. Ô moment terrible où l'âme, malgré sa si étroite union qu'elle a avec son corps, cette âme en est arrachée par la violence, soit de la maladie, soit de l'accident. Après avoir été dépouillé de tout, l'homme laisse aux yeux du monde une figure hideuse de lui-même, des yeux éteints, bouche muette, les mains sans action, des pieds sans mouvement, un visage défiguré, un corps qui commence à se corrompre et qui n'est plus qu'un objet d'horreur. Il vous est peut-être arrivé d'aller veiller les morts, d'aller prier, d'aller vous recueillir sur les dépouilles. S'il vous arrive encore, allez seulement voir. Regardez les lèvres, elles sont serrées. Ces lèvres qui parlaient, ces lèvres qui se nourrissaient. C'est fini. Elles sont sans vie. Elles ne bougent plus. Ses yeux, ses mains, ses pieds, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Ô moment impitoyable où les plus puissants et les plus riches perdent toute leur richesse et où ils n'ont pour héritage que la poussière du tombeau. Ô moment humiliant, le plus grand est confondu avec le plus misérable de la terre. On ne distingue pas la différence. Tout est confondu, Il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus de distinction. Tous se sont mis au même niveau. Mais ce moment est encore mille fois plus terrible par ses suites que par sa présence, puisque les pertes sont irréparables. L'homme, nous dit le Saint-Esprit, en parlant du mourant, ira dans la maison de son éternité, la maison qu'il aura choisie ici-bas. Ce sera celle de son éternité. C'est un moment court, mais bien décisif, après lequel le pécheur n'a plus de miséricorde à espérer. C'est fini. On tombe sous la justice de Dieu à partir du moment où on meurt. Même le juste n'a plus de mérite à acquérir. Eh bien, ce moment de la mort, cette pensée de la mort, a rempli les monastères de tant de grands du monde. Ces grands du monde qui ont tout quitté pour ne penser qu'à ce terrible passage du monde, de ce monde dans l'éternité. Vous connaissez l'histoire de Saint François de Borgia, qui était à la cour d'Espagne, tout un noble, une grande famille, qui a la vue de l'impératrice Isabelle dans son cercueil que l'on avait ramené en Espagne. Il avait été témoin, il devait reconnaître que c'était bien elle, il avait dû accompagner même tout le voyage, elle qui était réputée par sa beauté. Lorsqu'on ouvrit le cercueil et qu'il vit ce qui était devenu l'impératrice Isabelle, il en a eu telle horreur qu'il a décidé de tout quitter. Il se fait jésuite. Il a laissé tous ses biens. Il est arrivé à un tel point qu'il devait même demander à son supérieur pour un timbre de poste. Cette pensée de la mort a peuplé le désert de tant de saints qui n'ont cessé de se livrer à toutes les rigueurs de la pénitence que leur amour pour le bon Dieu a pu leur inspirer. Oh oui, moment terrible et court qui va décider de tout pour une éternité entière. Mais alors, comment cela se fait-il que nous y pensions si peu? Ou d'une façon si superficielle? Hélas, mes bien chers fidèles, que d'âmes brûlent maintenant en enfer pour avoir négligé de penser à la mort, pour avoir négligé cette pensée si salutaire. Laissons un peu le monde, laissons un peu ses biens et ses plaisirs pour nous occuper de ce terrible moment. Il faut que nous imitions les saints qui faisaient de leur principale occupation cette pensée. Laissons périr ce qui est destiné à périr avec le temps. Et donnons nos soins à ce qui est éternel et permanent. Ah, mes bien chers fidèles, nous n'avons pas, bien sûr, l'expérience de la mort, mais nous avons l'expérience que les autres ont eue avant de mourir. Ils nous ont bien fait comprendre que la réalité, ils la voient d'une façon toute différente. On cite souvent l'épée de Damoclès. Damoclès était un flatteur. Il flattait ce tyran de Syracuse que s'appelait Denis. Il le flattait pour ses biens, pour sa richesse, pour ses qualités, tout ça. Et un jour, Denis l'invita à prendre un repas chez lui. Et pour cela, il fit orner la plus belle de ses pièces de beaux meubles, de tentures, de magnifiques tapis. Il fit finir une vaisselle d'or et d'argent. Et à ce moment-là, on ne mangeait pas à table, on était sur les divans. Alors, il était invité à s'étendre sur le divan pour prendre un excellent festin. Et il fit même revêtir de tout beaux habits à Damoclès,
mis du parfum sur la tête, si bien que Damoclès, étendu sur son canapé devant une telle nourriture et entouré de tant de fastes, s'était dit, se croyait l'homme le plus heureux du monde. Et ce tyran de Syracuse, avait même fait venir des servants de qualité, habillés d'une façon somptueuse et d'une rare beauté même. Il se croyait au paradis, notre Damoclès, quand tout d'un coup, il lève la tête pour regarder le plafond, et que voit-il ? Une épée, une lourde épée, attachée à un tout petit fil et qui ne devait pas résister longtemps. Et cette épée la menaçait de le transpercer. Alors tout a changé. Ce n'était plus le même aspect. C'est fini, ces considérations. C'est fini de se prendre pour l'homme le plus heureux. Il demande à Denis de pouvoir se retirer, de s'en aller, alors qu'il était si bien. Voilà. Eh bien, c'est ça. La mort, c'est un peu comme l'épée de Damoclès. Ça nous fait voir la réalité d'une façon différente. Et nous aurons l'occasion, si Dieu nous la donne, de faire l'expérience, si nous ne mourons pas par accident ou subitement, ce dont nous devons demander tous les jours au bon Dieu de nous préserver. N'écoutez pas ces mondains qui disent, pour ceux qui ont fait une mort immédiate, rapide, qu'ils ont fait une belle mort. C'est la pire des morts, c'est ce que nous demandons dans la litanie des saints, de nous délivrer. Eh bien, si nous avons la grâce de pouvoir être un peu malade ou de sentir notre mort venir, eh bien, nous verrons déjà les choses qui seront différemment. Nous verrons les choses différemment. Nous devrons tout quitter. Voilà. Nous devrons tout quitter. Alors, il vaut mieux s'y préparer avant. Parce que, à ce moment-là, ce sera trop tard. Celui qui ne pense pas à la mort durant sa vie se met en un grand danger de n'y jamais penser ou de ne vouloir réparer le mal que quand il n'aura plus de remède. Et il y en a un qui connaît très bien cela et qui fera tout son pouvoir, tout ce qu'il pourra, tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire éviter de penser à la mort. C'est le démon. Il prendra tout son soin de nous faire perdre ce souvenir parce qu'il sait mieux que nous combien il nous est salutaire pour nous tirer du péché et nous ramener à Dieu. On raconte dans l'histoire qu'un jour un homme avait demandé à Saint Robert Bellarmin, qui était cardinal, de venir parce qu'il était mourant. Et bien sûr, Saint Robert s'y rendit tout de suite et cet homme était un procureur qui avait passé toute sa vie à rechercher les biens, à rechercher l'honneur, à rechercher l'estime. Donc c'était un mondain. Et Saint Robert, voyant cette âme près de paraître devant Dieu, essaye de le ramener à la raison. Saint Robert a pensé qu'il l'avait fait venir pour qu'il puisse faire une bonne confession, alors il s'applique à le préparer à la confession. Mais au bout d'un moment, cet homme l'interrompt en lui disant « Non. Si je vous ai fait venir, je vous ai fait venir pour consoler ma femme qui se désole de voir que je vais mourir. » Et Saint Robert lui dit « Mais le plus important, c'est que vous vous occupiez d'abord maintenant de votre âme au paraître devant Dieu. » Et cet homme lui répond « Oh, de toute façon, ce n'est pas la peine. Moi, je vais en enfer. » Mais il le disait d'une façon comme s'il allait à n'importe quel endroit, comme s'il allait au marché ou à son travail. Et Saint Robert essaie de le raisonner, lui dit, mais vous vous rendez compte où vous allez, ce qui va se passer pour l'éternité, en enfer. Accusez donc vos fautes, vous allez faire une bonne confession, le bon Dieu rend encore miséricorde de vous. Alors, je n'ai pas le temps de m'occuper, de toute façon mes péchés je ne les connais pas tellement, et j'aurai tout le temps en enfer d'y penser. Terrible. Et Saint Robert Bellarmin fait tout son possible pour le ramener à de bons sentiments, pour le convertir, rien à faire. Et cet homme meurt impénitent. Terrible. À deux doigts, il décidait de pouvoir aller au ciel. Il meurt impénitent. Eh bien, ça arrive comme ça. Les gens qui, durant leur vie, ne font pas cas des derniers moments, de leur vie éternelle, de leur salut, n'ont plus la grâce de le faire au dernier moment. raconte un autre fait terrible aussi. Il y avait un moribond à l'hôpital. Les religieuses font venir le prêtre. Le prêtre se rend. Il essaye de toucher cette âme qui refuse, qui rejette, qui maudit, qui injurie. Et le prêtre, faisant une prière fervente à notre Seigneur pour obtenir une grâce spéciale de conversion, notre Seigneur, sur le crucifix qu'il lui présentait au mourant, se mit à saigner. Et le moribond, voyant cela, se retourne en disant « Non, je ne veux pas ». Et il meurt ainsi. C'est des choses qui sont arrivées. Voilà, des hommes qui n'ont pas voulu s'occuper de leur salut durant leur vie, qui ont joué, qui ont dit « Oh, on verra ça, on verra ça, on verra ça. On verra ça plus tard, on aura tout le temps. » Dieu nous prendra quand on s'y attendra le moins. C'est ce qu'il nous dit. Veillez-vous, je viendrai quand vous y attendrez le moins. Ne soyons donc pas ces insensés. Voyez, la mort est certaine, c'est une réalité qui arrivera. Qu'on le veuille ou non, ça arrivera, on n'est pas immortel. Ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour nous. Demain, vous prendrez le temps d'ouvrir le journal et de vous regarder les avis mortuaires. Bien, aujourd'hui, il y en a de ceux qui rendent compte de leur âme à Dieu, de leur administration. Peut-être que nous serons un de nous dans le journal demain. Qui sait? Il est encore possible. On peut mourir encore avant 4 heures. Et le temps de faire les démarches, la famille a le temps d'avertir encore le journal de cela. On ne sait pas. On ne sait pas. Qui est-ce qui est certain de ne pas passer dessus le journal demain? 100%. On ne sait pas. Mais vous regarderez dans le journal. Il n'y a pas que des vieux. Hein. Il y a des jeunes aussi. Que le bon Dieu rappelle à lui. Pourquoi les autres et pas nous? Un jour, ce sera notre tour. La mort, c'est la naissance dans l'éternité. Alors, pour ceux qui auraient aimé Dieu, la mort est un événement heureux. Il y a des saints qui appelaient la mort, « Ô mort, quand viendras-tu prendre mon âme? Quand viendras-tu délivrer mon âme de ce corps mortel, de ce corps de misère ?» Même saint Paul s'écrit ainsi. Voilà. Pour aller rejoindre, pour aller s'unir à celui qu'ils ont aimé sur la terre, à Dieu. Voilà. Mais les pécheurs, ils craignent la mort. Pourquoi? Eh bien, parce que la mort va les priver de tout ce qu'ils auront recherché, des biens matériels, des honneurs, des richesses, des plaisirs. Alors demandons à Saint Joseph, qui est le patron de la bonne mort, lui qui a eu la chance de mourir entouré de la Sainte Vierge et de notre Seigneur. Méditons un peu. Essayons de nous voir dans un cercueil. Il y a des saints qui demandaient à être mis, qui allaient se mettre dans les cercueils pour méditer la mort. Demandons aussi à la très Sainte Vierge Marie, eh bien, de nous obtenir la grâce de nous préparer pour ce moment si important qui décidera de notre éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Combien cette promesse de notre Seigneur est consolante pour nous qui devons être sur cette terre comme des pauvres exilés. Notre Seigneur adresse ses paroles à ses apôtres dans le discours de Jeudi Saint, en leur annonçant son départ. Notre Seigneur, ce bon maître, a voulu nous faire comprendre l'excellence, la nécessité et l'efficacité de la prière, afin de nous y stimuler sans cesse. Nous savons, bien sûr, ce qu'est la prière, mais il est bon de nous le rappeler, parce que nous sommes toujours tentés de nous laisser aller à la routine, à nos habitudes. N'oublions pas que la prière est une élévation de notre âme vers Dieu. Et pourquoi cela? Pourquoi élevons-nous nos âmes vers Dieu? Eh bien, pour l'honorer, pour lui demander les grâces et les secours dont nous avons besoin. C'est une communication, c'est un entretien intime de la créature. Avec qui? Avec son Créateur. De l'homme
avec Dieu, de l'enfant avec son Père, et quel Père, un Père infiniment bon. C'est une échelle mystérieuse dans laquelle nous montons jusqu'à Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous prions, il faut nous élever de toutes ces choses matérielles, de toutes ces choses terrestres, pour nous approcher de Dieu. Quel honneur et quel bonheur c'est pour nous de pouvoir nous adresser à Dieu, à ce Dieu infini, à ce Dieu immense, à ce Dieu qui remplit tout l'univers, à ce souverain et éternel. Quel serait le bonheur d'un serviteur, d'un sujet, de pouvoir être reçu par son roi, par son empereur, par son souverain? Eh bien, c'est notre bonheur lorsque nous prions. Ce Dieu infini, ce Dieu éternel, ce Dieu qui tient tout en main, celui qui aura le dernier mot, celui pour qui tout a été créé, prend la peine de nous écouter. Il prête l'oreille à nos pauvres petites paroles. Est-ce que nous avons pensé à cela quelquefois? Eh bien, voilà ce qui se réalise lorsque nous prions. Et tout le monde peut prier. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tout le monde. Et Dieu écoute chacun, chaque âme qui s'adresse à lui. Mais bien sûr, tout cela suppose que la prière soit bien faite et qu'elle soit sérieuse. Il ne faut pas que ce soit de vains bruits, des paroles qui sont récitées machinalement et qui sont indignes de porter le nom de prière. Il ne faut pas que ce reproche de notre Seigneur nous soit fait. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. On comprend alors que notre cœur doit être justement près de Dieu, que les paroles soient l'expression du cœur, des sentiments de notre cœur. Est-ce qu'il est nécessaire de prier? Il y a des fois des gens qui disent « Oh, nous on ne prie pas et puis ça va très bien. On n'a pas besoin de prier, à quoi bon prier? Ça se fait pour les petites gens. Mais on n'a pas besoin de prier, ça va très bien. » Et c'est vrai. Quelquefois, il y a des gens pour qui tout va très bien et ils ne prient pas. Saint Jean Chrysostome nous donne une petite image pour nous faire comprendre combien il est nécessaire de prier. Et il nous dit que le corps sans l'âme est mort. De même, l'âme sans prière est morte. Et aussi, à un autre endroit, il nous donne cette autre image en nous disant « Autant l'eau est nécessaire aux plantes pour empêcher qu'elles se dessèchent, autant la prière est nécessaire à l'âme pour qu'elle ne se perde pas. » Bien sûr, nous savons que Dieu veut que nous soyons tous sauvés et il ne veut que personne ne se perde. Seulement, il veut que nous lui demandions les grâces nécessaires pour nous sauver. Il sait très bien les grâces que nous avons besoin, mais il ne veut pas les donner si nous ne les lui demandons pas. D'un côté, nous savons que sans le secours de Dieu, nous ne pouvons pas observer les commandements du bon Dieu et nous ne pouvons pas faire notre salut. Mais d'un autre, Dieu ne veut pas ordinairement par là nous accorder ses grâces à moins que nous en fassions la demande. Alors vous comprenez l'absolue nécessité de prier. Le Concile de Trente nous dit que Dieu n'impose pas de commandement impossible. Quelquefois il y a des gens qui disent c'est impossible. C'est pas vrai. Dieu ne donne jamais des commandements impossibles. Car il nous donne ou bien la grâce de les observer, ou bien la grâce de demander la grâce d'observer les commandements. Bon Dieu nous donne la grâce, car vous savez bien que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas adresser de prière au bon Dieu. Alors il nous donne la grâce de prier et de demander à Dieu la grâce nécessaire pour observer les commandements et se sauver. Si nous refusons cette grâce de la prière, alors il ne nous obtient pas la grâce de nous sauver. Saint Augustin nous dit que, excepté les premières grâces, telles que l'appel de la foi, l'appel à la foi et à la pénitence, Dieu accorde toutes les grâces, en particulier la persévérance finale, seulement à ceux qui prient. Alors vous comprenez que personne, absolument personne ne peut se sauver sans la prière. Bien sûr, excepté les petits-enfants qui meurent en bas âge après avoir été baptisés. Mais tous ceux qui sont en âge de prier ne peuvent plus se sauver sans la prière. Et la prière bien faite, bien sûr. Il y a quelquefois des gens qui disent « Oh, mais nous prions !» Mais nous ne sommes jamais exaucés. Le bon Dieu ne nous écoute pas. Nous ne sommes pas dignes d'être écoutés de Dieu. Alors ce sont de faux raisonnements. Saint Jacques nous répond sur ce sujet en nous disant « Vous demandez et vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. » Pour que la prière soit exaucée, il faut des conditions. Et la première des conditions, c'est l'humilité, demander avec un cœur humble. Dieu nous dit encore, l'apôtre Saint Jacques, il résiste aux superbes, les superbes, c'est-à-dire les orgueilleux, ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, sûrs d'eux-mêmes, Dieu leur résiste. Mais il donne les grâces aux humbles. Et le Saint-Esprit nous dit, dans le livre de l'Ecclésiastique, la prière de celui qui s'humilie pénétrera les nues et elle ne se retirera pas que le Très-Haut ne l'ait regardée. En somme, la prière des humbles ne se restera jamais sans résultat, malgré les péchés qu'on a commis par le passé. L'Esprit-Saint nous dit encore dans le psaume 50, « Non, Seigneur, vous ne mépriserez jamais, vous ne mépriserez jamais le cœur contrit et humilié. » C'est le Saint-Esprit qui nous dit cela. Et donc c'est une parole infaillible. Dieu ne méprisera jamais le cœur humble et contrit. En deuxième lieu, pour prier, il faut prier avec confiance. Encore là, le Saint-Esprit nous dit, dans le livre de l'Ecclésiastique, « Personne n'a espéré dans le Seigneur et n'a été confondu. » Si notre Seigneur nous recommande de ne donner aucun autre nom que celui de Père, quand nous lui demandons des grâces, c'est précisément afin que nous prions avec la confiance d'un enfant qui a recours à son Père. Voilà comment notre Seigneur veut que nous prions. Quand vous priez, dites « Notre Père » et non pas « Ô grand Dieu » mais « Notre Père ». Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et il vous arrivera. Et saint Augustin, commentant cette parole, nous dit « Qui donc peut craindre d'être trompé quand Jésus-Christ, qui est la vérité même, le promet ?» Pourquoi donc le Seigneur nous presserait-il tant de demander ses grâces s'il ne voulait pas nous les accorder ? Notre Seigneur met tant d'insistance. Eh bien, cela, c'est précisément parce qu'il veut nous exaucer. En effet, il n'a pas pu nous promettre sans s'obliger à nous donner les grâces que nous lui demandons. Et d'ailleurs, Dieu a un désir plus grand d'exaucer nos demandes que nous avons de les demander. Le désir de Dieu est beaucoup plus grand que notre désir d'obtenir. Peut-être que les pécheurs pourraient se dire, oui, mais nous avons tant offensé le bon Dieu par nos péchés qu'il ne peut pas écouter nos prières, qu'il ne peut pas nous exaucer. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nos prières ne reposent pas selon nos mérites, mais que Dieu exauce nos prières à cause qu'il est miséricordieux. Et d'ailleurs, c'est le sens de ces paroles. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. C'est comme si Jésus nous disait, pécheur, si vous n'avez pas de crédit auprès de mon Père, moi j'en ai. Demandez en mon nom et je vous le promets, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Et vous savez que Dieu le Père ne peut rien refuser à notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument rien. Alors Jésus nous dit, demandez en mon nom. Il nous en fait presque un commandement. Et alors vous êtes sûr de l'obtenir. C'est formidable ça. On est quand même gâté d'avoir ce beau moyen qu'est la prière. Que Dieu soit loué de nous avoir donné ce moyen si facile, mais si puissant, de toucher le cœur de Dieu qu'est la prière. Oh, ne laissons pas passer nos journées sans prier. Que devons-nous demander dans la prière? Eh bien, il faut demander, c'est sûr, tout d'abord les biens spirituels. Voyez, le salut de nos âmes, les vertus, la vertu de charité, la contrition de nos péchés, la persévérance finale, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, voilà ce que nous devons demander dans la prière. Cependant, on peut quand même demander des choses temporelles, des choses matérielles, mais il faut toujours ajouter la condition. Si c'est pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Il y a un saint qui disait, Dieu refuse quelquefois dans sa bonté ce qu'il donne dans sa colère. Ça veut dire que Dieu refuse quelquefois les demandes de ceux qui le prient parce qu'il se rend compte que cela sera à leur détriment, mais il accorde certaines choses à d'autres qui l'outragent et qui vivent loin de lui parce qu'il leur donne la récompense ici-bas qu'ils n'auront pas de l'autre côté. Alors il ne faut pas se laisser tromper par ceux pour qui tout va bien. Peut-être qu'ils ont la récompense ici-bas, mais l'éternité, ils la passeront en enfer. Alors, mes bien chers fidèles, répondons à cette invitation de notre Seigneur et prions. Prions toujours, prions sans cesse. Ce n'est pas difficile de prier. C'est cet entretien avec Dieu. Est-ce qu'on a peur de s'entretenir avec quelqu'un qu'on aime? Au contraire, on prend le téléphone et on téléphone volontiers à un ami. Alors, avec Dieu, est-ce qu'on a peur de s'entretenir avec lui, ce Dieu si bon, ce Dieu qui veille sur nous, ce Dieu qui nous a tout donné? On ne voudrait pas nous entretenir avec lui. Le matin, on se lève et puis on pense au déjeuner et à la journée sans penser au bon Dieu qu'on aime et qui nous aime. Voyez, ça ne va pas très bien, ça. On ne peut pas. Alors on ne l'aime pas. Ou on est indifférent. Ou le bon Dieu ne nous intéresse pas. Alors là, oui, on peut oublier sa prière du matin. Mais sinon, si on aime vraiment le bon Dieu, est-ce qu'on oublie de le remercier de la nuit qui vient de s'écouler, de la nouvelle journée qui commence? Est-ce qu'on oublie de lui demander les grâces nécessaires pour bien accomplir cette journée, bien profiter de ce temps? Alors il nous faut prendre cette résolution de prier et de bien prier pas de prier comme des moulins à café qui font du bruit mais qui ne prient pas. Celui qui prie se sauve, dit saint Alphonse de Ligorie, celui qui ne prie pas se damne. Tous ceux qui sont au ciel, s'ils n'avaient pas prié ou cessé de prier, ne seraient pas au ciel. Tous ceux qui sont en enfer, s'ils avaient prié ou qui n'avaient pas cessé de prier, ils ne seraient pas en enfer. Alors prions et recourons, comme nous le recommande saint Bernard, à la très sainte Vierge Marie. Demandons à Notre-Dame de nous apprendre à prier. Elle a prié. Bien sûr, elle parlait avec Dieu. Et combien de fois? Très souvent, à tout moment. Elle le remerciait, le louait, l'honorait, lui demandait ce qu'il fallait, toutes les grâces pour qu'elle restât fidèle, pour qu'elle persévère dans cette grâce de l'Immaculée Conception. Vous voyez? Demandons à Notre-Dame de nous faire entrer dans ces sentiments qui rendent nos prières agréables à Dieu. Sentiment d'humilité, sentiment de confiance d'un enfant vis-à-vis de son Père. Qu'elle nous fasse devenir comme ses petits-enfants que nous devons devenir si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance et les honneurs divins, la sagesse et le pouvoir de gouverner, et la louange qui lui revient. À lui, gloire et royauté pour l'éternité. C'est par ces paroles que la messe d'aujourd'hui commence, en nous invitant à honorer notre Maître, à adresser ce culte à notre Seigneur Jésus-Christ, roi. Et quel devrait être notre bonheur, mes bien chers fidèles, de célébrer la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi, que l'Église a voulu établir au dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire avant la fête du 1er novembre, fête de Toussaint. Car si tous les saints le sont, ce sont ceux qui ont été serviteurs de ce roi. Et ils le sont maintenant au ciel. On appelle l'Église triomphante. Ils ont lutté à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, roi. Ils se sont engagés dans son armée, dans sa milice, et maintenant ils reçoivent la récompense que leur obtient le roi. Si cette fête doit être une joie pour nous, elle est bien sûr mêlée de quelque tristesse en voyant combien sont peu nombreux ceux qui le connaissent, ceux qui l'aiment et ceux qui le suivent. Même ceux que ce roi a revêtu de l'autorité dans son Église font l'œuvre des ennemis du Christ roi en demandant aux États de ne plus reconnaître dans leur constitution la place qui lui est due et que nos pieux ancêtres lui ont donné. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que tous ces ennemis s'opposent à la réalité des choses. Ils se trompent même. Le titre de roi n'est pas donné à notre Seigneur Jésus-Christ par les hommes. Il l'est. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. En tant que Dieu, tout lui appartient, il a tout créé. Et en tant qu'homme, par son union hypostatique, cette union de la nature divine et la nature humaine dans la personne, dans la deuxième personne de la très sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi roi en tant qu'homme par son œuvre rédemptrice. Il n'a pas versé le sang des autres pour imposer sa royauté, ce que souvent les rois font. Pour imposer leur royauté, ils font couler le sang des autres. Mais lui, il a versé son propre sang pour qu'il soit digne de recevoir ce titre de roi en tant qu'homme. Mais il l'est. Je ne voudrais pas m'allonger sur ces pauvres ignorants enflés d'orgueil, qui se donnent tant de peine
pour s'entendre dire au jugement de la bouche de celui qui est roi, retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses serviteurs. Mais non, restons dans cette note de joie, réjouissons-nous d'avoir un roi tel qu'il est, qui ne nous impose pas un fardeau pesant et écrasant, mais un joug doux et suave. C'est un roi plein de douceur, plein de bonté et plein d'amour pour nous. Si nous pouvions nous rendre compte ou avoir une petite idée de cet amour que notre roi a pour nous, nous ne pourrions pas ne pas l'aimer. Bien qu'il puisse s'imposer à nous par la force, et quelle force, car il est le Tout-Puissant. Et personne ne peut lui résister. Il aura le dernier mot. Il peut tout ce qu'il veut. Et bien donc, bien qu'il puisse s'imposer à nous par la puissance, par sa majesté, eh bien c'est par son amour. Et en respectant notre liberté, qu'il veut nous conquérir. Oh, que serait le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laisseraient gouverner par notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, alors, il serait possible de guérir tant de blessures. Tout droit retrouverait sa vigueur. La paix véritable et durable réapparaîtrait avec tous ses charmes. Les glaives tomberaient et les armes glisseraient des mains. Le jour où tous les hommes accepteraient de bon cœur la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ, obéiraient à ses commandements. C'est pour que la société bénéficie de ces avantages si précieux et qu'elle les conserve à jamais que la Sainte Église a établi en ce 20e siècle cette fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi. Non pas qu'avant, avoir établi cette fête, elle ne le reconnaissait pas, mais elle a voulu que nous l'honorions publiquement par un office liturgique. Justement parce que cette royauté de notre Seigneur était bafouée et que notre Seigneur Jésus-Christ est rejeté. Rejeté de la plupart des hommes et des institutions. Les solennités annuelles des fêtes liturgiques sont bien plus efficaces que tous les documents, même les plus graves du magistère ecclésiastique. Car bien peu prennent la peine de lire ces magnifiques documents, ces magnifiques encycliques. Mais par la fête solennelle, tout le monde est réorienté vers ce que cette fête veut incruster en nos âmes, vers ce culte que nous devons rendre, ou vers le vocable que nous rendons à Dieu. Aujourd'hui, c'est le Christ roi, oui. Roi de l'univers, roi des nations. Si nos sociétés civiles et religieuses ne veulent plus de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous du moins, faisons notre possible afin qu'il règne en chacun de nous, dans nos familles, qui, ne l'oublions pas, est la cellule première de la société. Si les familles sont saines, la société sera saine. Si les familles sont corrompues, la société sera corrompue. C'est là que l'on éduque les enfants qui seront plus tard ceux qui nous gouverneront. Il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne en nous. Et comment cela? Eh bien, par la grâce sanctifiante. Vous le savez, par la grâce sanctifiante, la Trinité Sainte habite en nos cœurs, habite en nos âmes. Grâce sanctifiante que, vous savez, nous avons reçue au baptême, qui peut être retrouvée si par malheur nous l'avions perdue par le péché mortel, au sacrement de la pénitence. Il faut donc que nous gardions déjà la grâce sanctifiante et que nous observions fidèlement les engagements de notre baptême, pratiquant les vertus qu'il nous a enseignées par son exemple, par ses prédications, ces vertus qui sont des vertus sociales, vertus d'humilité, qui engendrent la concorde, qui engendrent la paix, tandis que de l'orgueil naît la discorde, les haines, les rixes et les guerres. Vertus de pureté, qui donne une saine atmosphère et une joyeuse innocence, tandis que l'impureté conduit à tous les désordres. Que le Christ roi règne aussi dans nos familles, non seulement dans les individus, mais dans les familles, auxquelles il a promis tant de bienfaits. Et comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ pourra régner dans nos familles? Eh bien, qu'il soit bien accueilli, et tout particulièrement par cette intronisation du Sacré-Cœur du Christ roi dans les familles. Si notre Seigneur Jésus-Christ règne sur toutes les familles, automatiquement il régnera sur la société. Voilà, mes bien chers fidèles, quelques pensées en ce jour de la fête du Christ roi. La pratique de la vertu nécessite du renoncement à soi-même, nécessite des efforts. Il faut prier, il faut aller à la messe, il faut confesser, il faut communier, il faut aller aux offices. Mais réfléchissez un peu, comparez l'effort que demande la pratique des vertus. Est-il si terrible à comparer aux conséquences désastreuses du péché et du vice? C'est le péché qui nous complique la vie, tandis que le jour de notre Seigneur Jésus-Christ nous ennoblit, nous édifie, nous sanctifie. L'autre nous avilit, nous rend hargneux. Soumettons-nous donc volontiers à ce Christ roi. Soyons heureux d'avoir un roi tel qu'il est. Un roi qui n'a que de pensées d'amour sur nous. Remercions Dieu de tout cela et adressons-nous à la très sainte Vierge Marie, qui est notre reine, pour que le Christ roi puisse toujours plus régner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.